On vous fait patienter quelques minutes, mais c'est vrai qu'avec la fin de l'exposition au CNES, l'entrée dans le centre Pompidou est difficile. Donc voilà, on s'est permis de prendre quelques minutes supplémentaires pour laisser arriver. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à rentrer. C'est vrai que ce n'est pas simple aujourd'hui. C'est la fin de l'exposition au CNES, c'est les vacances scolaires, il y a donc énormément de monde. Voilà, nos invités sont prêts et sont arrivés. Ils vont s'installer, comme ça ils seront prêts. Donc bonsoir et bienvenue à cette rencontre organisée avec le Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre de la manifestation Prestart qui a pour thème le Game Revival organisé par la Bibliothèque publique d'information. Le festival Prestart propose depuis 5 ans au public de la bibliothèque et au public du Centre Pompidou d'entrer dans les coulisses de la création vidéoludique à travers une série de démonstrations de jeux, des jeux indépendants ou artistiques, d'ateliers, de rencontres, mettant en avant la créativité, la variété et la richesse de cette industrie culturelle et interroge sa place dans la société. Il est aussi l'occasion de mettre en avant les collections de la Bibliothèque publique d'information dans ce domaine qui, aux côtés des livres, périodiques, films et musiques, ainsi que d'autres documents plus traditionnels dans les bibliothèques, affirment leur légitimité auprès du grand public. Prenant prétexte des 40 ans du Centre Pompidou et bien sûr des 40 ans de la Bibliothèque publique d'information, Prestart a choisi d'explorer cette année la tendance du jeu vidéo à réinterroger son histoire ainsi que la mode du rétro gaming. Une série de rencontres, de présentations, de jeux et d'ateliers autour de ces thèmes ont été proposées au cours des 10 premiers jours et la manifestation se prolonge jusqu'à dimanche avec des ateliers maké-maké et game design, un concert de l'orchestre symphonique Pixelophonia et enfin une game jam que nous allons organiser pour la deuxième année consécutive de 48 heures, du vendredi 27 au dimanche 29 octobre au soir, où bien sûr nous allons garder nos participants pendant deux nuits complètes. Dormir au Centre Pompidou, c'est quand même un vrai truc. Nous sommes donc très heureux d'accueillir dans ce contexte cette table ronde sur la place du jeu vidéo dans la société contemporaine. Nous remercions les participants Oscar Barda, Kayane, Xavier Dang et Jean Zé. Jean Z, d'avoir accepté de nous faire partager leur expertise sur ces questions. Je dois aussi remercier Juliette Nouridine, qui, je pense, est parmi nous. Et bien sûr, je remercie particulièrement le CNC pour la proposition de ce débat. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Frédéric Bredin, présidente du Centre national du cinéma. Merci.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci, chère Christine Carrier, de nous accueillir ici et d'accueillir cette table ronde. C'est une joie de pouvoir organiser ça au Centre Pompidou, dans ce cadre. Et je sais que vous faites, à la tête de la BPI, un travail remarquable. Alors, pour introduire, mais très rapidement, cette table ronde, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres très significatifs sur l'ampleur du sujet dont on va parler, puisque aujourd'hui, le jeu vidéo représente, dans le monde, un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est évidemment considérable. Et en l'espace de 30 ans, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle, de loin devant le cinéma et la musique. En France, dans notre pays, aujourd'hui, c'est 70% des Français qui jouent, avec des profils extrêmement variés, une parité, je tiens à dire, homme-femme, et l'âge moyen, contrairement aux stéréotypes, est 34 ans. Donc, 70% aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, c'était environ 20%. On voit une progression considérable dans toute la société. Et chez les jeunes, évidemment, c'est 90% des jeunes qui, aujourd'hui, jouent aux jeux vidéo. Alors, cette progression est incroyable dans notre pays, et comme je le disais, elle est incroyable au niveau mondial, car si on regarde cette grande communauté des joueurs, eh bien, on atteint 3,5 milliards d'individus, soit 60% de plus qu'il y a 5 ans. Et en 2020, le cap des 4 milliards de joueurs sera dépassé. Voilà. Alors, le jeu vidéo, il est important qu'on réfléchisse à sa fonction et à sa fonction dans la société, puisqu'il y occupe une place majeure maintenant. Et si la proportion des joueurs, bien sûr, n'a cessé de croître, la multiplicité, vous m'excusez, je suis fatiguée. Les usages se sont multipliés et, pas mal, et pour devenir de plus en plus variés. Et ce que l'on voit, c'est un déploiement, je dirais, dans tous les horizons de la société. D'abord dans la famille. Aujourd'hui, les parents ont joué aux jeux vidéo quand ils étaient enfants. Et l'on voit se multiplier dans le cadre familial, créant l'utilisation des jeux vidéo, créant bien sûr un lien entre parents et enfants, et ce qui permet de se parler, d'être ensemble par l'intermédiaire du jeu. Et puis, le jeu vidéo aussi est en train d'investir l'école, et l'on peut s'en réjouir, car beaucoup de professeurs se servent aujourd'hui des jeux de divertissement comme des supports pédagogiques attractifs pour les jeunes, et notamment pour ceux qui ont des difficultés dans les filières les plus, dans les méthodes, disons, les plus classiques d'enseignement. Et c'est le cas, par exemple, du célèbre jeu SimCity, qui a été, avant même l'arrivée des Serious Games, utilisé pour étudier la géographie et les paysages urbains au collège. Et puis dans la médecine aussi, on voit se développer dans les hôpitaux ou utilisés par des médecins des jeux vidéo. Il y a l'hôpital Necker, vous le savez peut-être, un service qui utilise ces jeux pour des enfants autistes. Il y a un service de psychologie à Périgueux qui utilise des jeux comme Super Mario pour aider les enfants qui sont repliés sur eux-mêmes à se socialiser. Et quant aux jeux avec Avatar, eh bien, ils permettent à beaucoup de jeunes se confronter virtuellement à des situations complexes sans se sentir menacés. Donc ce sont des outils qui seront de plus en plus précieux dans la médecine. Voilà, je dirais en plus que si le jeu vidéo, on va le voir tout à l'heure, peut faire du bien à chacun, il permet aussi de faire le bien et de créer des élans de solidarité. Et ça fait longtemps que la communauté des joueurs se mobilise pour des causes caritatives. On l'a vu encore dernièrement avec le marathon Z-Event, qui était destiné à l'aide humanitaire après le passage d'Irma. Et une trentaine de joueurs français, dont vous, Mr. MV, ont joué en direct pendant 50 heures. Cela a permis de lever 450 000 euros pour la Croix-Rouge et donc pour les victimes d'Irma. Alors tout ça pour vous dire, compte tenu de tout cet usage social, compte tenu de ce potentiel extraordinaire, le jeu vidéo est un enjeu majeur pour le CNC. Et nous sommes en tous les cas d'ores et déjà un peu la maison du jeu vidéo, en plus de la maison du cinéma et de l'audiovisuel, et nous aimerions l'être encore davantage dans les années à venir. Depuis 2008, donc presque 10 ans, nous soutenons à travers notre fonds d'aide aux jeux vidéo, qui a aidé par exemple en 2016 40 projets avec 3 millions d'euros. Et l'an dernier, vous le savez sans doute, peut-être en tous les cas, le crédit d'impôt jeux vidéo a été relevé, ce qui est très important pour soutenir la production de jeux vidéo, et notamment de grandes productions comme l'événement de la rentrée, Mario contre Lapin Crétin d'Ubisoft. Alors voilà, pour nous, le jeu vidéo est un enjeu majeur pour la société de demain, un secteur d'avenir en termes de création, bien sûr, mais aussi par sa place, la place qu'il pourra occuper dans la société. Et c'est pourquoi nous voudrions renforcer nos aides et nous y travaillons, et nous voudrions y travailler encore avec les professionnels du secteur. Mais place au débat, place à ce que vous allez nous dire de votre expérience, et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont venus pour nous éclairer justement sur tous ces nouveaux usages du jeu vidéo. Mr. MV, on en parlait, qui est animateur de l'un des plus importants streamers de la plateforme Twitch en France. Kayane, championne du monde de compétition de e-sport. Animatrice sur la chaîne TV spécialisée Game One. et c'est l'une des principales figures du jeu vidéo en France. Nous vous remercions. Oscar Barda, qui est ancien responsable de l'espace jeux vidéo de la Gaîté Lyrique et qui a notamment développé des initiations aux jeux vidéo pour les personnes âgées. Et aujourd'hui, Oscar Barda est directeur éditorial de Black Nut, une nouvelle plateforme par abonnement de jeux vidéo en streaming qui ouvrira à la fin de l'année. Et je voudrais remercier tout particulièrement Jean Z, journaliste à France Info, d'avoir accepté modérer ce débat. Et je voudrais encore dire un grand merci à quelqu'un que vous avez cité aussi, qui est Juliette, qui est chanteuse que tout le monde connaît, bien sûr, et qui est aussi la présidente de notre commission du Fonds d'aide aux jeux vidéo. Elle a accepté cette présidence et nous étions très heureux parce qu'elle porte haut et fort les couleurs du jeu vidéo et elle aide très concrètement au CNC, au quotidien, les projets à se faire. Alors, elle ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais donc elle a souhaité nous laisser un message par vidéo que nous allons donc entendre avant de commencer le débat. Et je vous remercie encore à tous pour votre participation. Merci.
De Juliette, qui est effectivement formidable. Merci à vous d'avoir affronté l'automne, les premiers vents et les premières pluies, et d'être ici.
Jeux vidéo et société, donc le meilleur des mondes, point d'interrogation. La question est finalement pas évidente si on regarde au regard de l'histoire et au regard finalement de l'image du jeu vidéo dans le grand public. Longtemps, il a été accusé, je ne vais pas vous l'apprendre, de pousser à l'isolement, hein, de couper les joueurs du monde. Il a souvent été accolé à des champs lexicaux de la drogue, de l'alcool, de la psychose. Et le jeu vidéo serait devenu aujourd'hui, finalement, au contraire, un moteur du vivre ensemble. C'est ce qu'on va voir, j'espère, ce soir. Pour la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, je la cite, un de ses tweets, en tout cas majeur, « Le jeu vidéo est un vrai élément de notre culture en France ». Génial. Et ouverture à l'autre, donc, au monde des arts. Ce jeu vidéo est décidément très culturel. Vous allez l'entendre donc ce soir. Avant de finalement d'écouter Juliette, j'aimerais qu'on regarde une vidéo de 79 pour bien finalement se situer dans le temps, c'est-à-dire d'où l'on vient. C'est un reportage d'Antenne 2, Feu France 2, donc, l'ancien nom de France 2. Reportage donc dédié à Space Invaders. Nous sommes en 1979. Space Invaders cartonne au Japon, mais c'est un phénomène incroyable. Hein, c'est Pokémon Go, quoi, multiplié par 10, parce qu'on part de rien et on va arriver finalement à un pays qui va avoir des salles d'arcade partout grâce à un jeu à Space Invaders. Et donc, je vous propose de regarder ce reportage qui est assez pimenté. Vous allez l'entendre.
Étonné, puisque nous parlons d'extraterrestres, je propose maintenant un reportage qui nous vient de Tokyo. Au Japon, en effet, un nouveau jeu fait fureur, les envahisseurs de l'espace. Je ne vous en dis pas plus, regardez bien.
Le Japon est envahi par des extraterrestres et des soucoupes volantes. Il s'agit d'un nouveau jeu électronique qui fait fureur et qui fait des ravages, surtout chez les jeunes. Tout est fait ici pour harponner, conditionner, faire appel aux instincts agressifs, amoindrir aussi les réflexes des joueurs par un déluge de décibels, par le scintillement des lumières, par l'éblouissement des couleurs, par le jeu de la guerre et de la survie. Des extraterrestres aux pinces de crabe tentent d'envahir la Terre et pour défendre votre bonne vieille Terre, vous disposez de lance-missiles mobiles et d'abris souterrains. De temps en temps, une soucoupe volante vient à la rescousse des envahisseurs et c'est à qui détruira les autres le premier. Au fur et à mesure que le dénouement approche, le rythme s'accélère. Alors il faut bien sûr de bons réflexes, de la rapidité, un peu de stratégie et beaucoup, beaucoup de désintéressement, car ce jeu ne rapporte aucune récompense. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même prostituées. La pègre des grandes villes, toujours à l'affût, voilà une nouvelle source profitable de revenus. Elle tente de contrôler ces nouveaux jeux qu'on peut installer partout sans autorisation.
Voilà. Merci Alina de nous avoir donné l'autorisation de diffuser ce reportage donc de 1979. Alors vous l'avez entendu, épidémie, fléau, vol, prostitution, pègre, bref. Le champ lexical vidéoludique est plutôt celui de Taxi Driver de Martin Scorsese. Hein, on n'est pas chez les bisounours. On est très loin de cette vidéo de 2017. Je remercie le CNC d'avoir ouvert cette table ronde qui va nous permettre un peu de dépoussiérer cette image de 79. Kayane, vous êtes joueuse professionnelle, organisatrice d'événements, vous êtes animatrice télé également. Est-ce que pour vous ce jeu vidéo a joué le rôle de moteur d'ouverture aux autres, tout simplement?
Complètement. Moi, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 4 ans, à jouer aux jeux vidéo avec du Tetris pour commencer. Ensuite, à 7 ans, j'ai eu un gros coup de cœur pour le jeu Soul Calibur sur Dreamcast, grâce à mes frères qui étaient champions sur le jeu Tekken, un autre jeu de combat. Et en fait, jouer aux jeux vidéo, ça a été pour moi la possibilité de me rapprocher de mes grands frères qui ont 7 ans et 11 ans de plus que moi. Mmh. Et eux, ils jouaient ensemble, ils achetaient les consoles avant avec l'argent de poche. Et du coup, moi, qui est bien plus jeune...
C'est difficile de discuter autant d'écart d'âge.
Ouais, exactement. Et du coup, le jeu vidéo nous a rapprochés et j'ai commencé à avoir un bon niveau grâce à eux. Ils m'ont emmené en tournoi. Et en fait, c'est là que j'ai pu voir qu'il y avait d'autres joueurs que mes grands frères et que leurs copains. Il y avait aussi d'autres passionnés de jeux de combat comme moi. Il y avait 64 participants, parfois 128, et puis même 300 personnes venues du monde entier pour jouer à des jeux de combat. Donc ça a été pour moi une révélation.
Mais est-ce que vous savez aujourd'hui si c'est... grâce aux jeux vidéo que vous êtes rapproché des frères, ou est-ce que vous êtes passé par le jeu vidéo pour vous rapprocher est-ce que c'était un prétexte pour vous rapprocher de vos grands frères au départ?
C'était le prétexte pour me rapprocher d'eux, parce que je les voyais jouer, rigoler ensemble, et moi, on me mettait des pauvres poupées. Ma mère essayait de me mettre des poupées, et en fait, ça ne marchait pas du tout, en vain. Et moi, je me disais, mais je veux jouer à ces jeux-là, avec les manettes, là. Je veux faire pareil que mes grands frères. Et en fait, j'ai pris plus de plaisir qu'eux à y jouer. Des fois, je me rappelle que je me réveillais à 6h du matin exprès pour jouer à StarCraft, Brodoir, avant que mon frère se réveille. Et après, il m'a vu, il m'a dit, mais t'es encore plus accro que nous, en fait, aux jeux vidéo. Et je jouais en ligne déjà, si jeune, à 9 ans. Et je me faisais des amis en ligne aussi. Et mes frères étaient là aussi quand même pour surveiller. Je parle pas à n'importe qui. Mais voilà, ça a été d'abord pour me rapprocher de mes frères. Et puis finalement, c'est moi qui ai aimé le plus. Et aujourd'hui, ils ont arrêté. Et moi, je continue toujours de jouer.
Oui, c'est ça. Finalement, le prétexte est devenu plus qu'un art de vivre, même une activité professionnelle, simplement.
Bah oui, c'est une passion qui est devenue mon activité professionnelle principale. Je vis du jeu vidéo, et dès que je fais autre chose que le jeu vidéo, je vais jouer du piano pour des musiques de jeux vidéo, notamment du Final Fantasy. Quand je lis des bouquins aussi, très souvent, c'est l'histoire du jeu vidéo. Donc bref, je vis jeu vidéo tout le temps.
Oscar Barda, directeur éditorial chez Black Nut. L'ouverture aux autres, finalement, c'est intrinsèquement lié au jeu vidéo, vous pensez, ou...
Alors en fait, pour moi, ce n'est pas du tout lié au jeu vidéo, c'est lié au jeu en général. Au sens où le jeu, il peut raconter quelque chose, il peut être discursif, hein, comme le fait qu'à l'origine des échecs, le but c'était de, quand ils ont émergé en Inde, le but c'était de tuer le roi adverse. Et quand ils passent par le monde persan et qu'ils arrivent en Europe, on change la règle pour que dans les échecs, le roi soit sacré, parce que le roi, il est là de droit divin, et en Europe, on ne blague pas avec le fait de tuer le roi, on n'en fait pas un jeu, en fait. Donc les échecs sont discursifs, ils racontent un truc sur le monde qui les entoure, en fait. Et c'est un petit peu ce que disait Juliette dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un truc d'œuf et de la poule, où à la fois les échecs racontent quelque chose sur le monde, et à la fois ils racontent quelque chose du monde. Donc en fait, les jeux, comme le reste de la culture, en elles, on crée des choses, et elles racontent des choses de nous. Et en regard de cette culture que nous-mêmes on a recréée, on recrée et on re-raconte des choses à l'infini. Donc le jeu, il est en capacité d'être le médiateur d'une conversation entre deux personnes. Il y a un million d'histoires qu'on pourrait raconter là-dessus, mais il est capable d'être le médiateur d'une conversation, et une conversation qui souvent se fait sans mots. C'est-à-dire que le jeu, c'est quelque chose qui n'est même pas propre à l'humain, qui est quelque chose qui nous prédate. Les animaux y jouent, et ils jouaient avant nous. Et il est probable, on a des traces de dinosaures qui jouaient déjà, en fait, Alors, ils jouaient pas aux jeux.
Être au milieu.
Ils jouaient pas aux jeux vidéo. Ça. La résolution était pourrie. Leur console était vraiment nulle. Mais fonctionnellement, ils jouaient déjà. Ils jouaient avec des objets qu'on trouve griffés, alors qu'ils auraient dû mordre dedans s'ils avaient voulu se nourrir. Non, là, ils ont griffé, donc ils ont dû jouer avec. Et aujourd'hui, on arrive avec des iPads avec un écran un petit peu blindé, mais des humains arrivent à jouer à des jeux avec des orangs-outans, avec des bonobos. Et on arrive à jouer avec eux, à rigoler avec eux, à partager quelque chose avec eux. Et donc, il y a une part du discours qui traverse le jeu, en fait. Et c'est ce que tu dis un petit peu avec tes frères, c'est-à-dire, même si on a du mal à s'exprimer, même si on n'a pas envie de mettre des mots dessus, à travers le jeu, on est capable, à travers ses règles et ses capacités spécifiques, hein, parce que chaque jeu est différent et il permet un mode de discours différent, on est capable d'être en collaboration, en compétition, en construction ensemble. Et donc effectivement, pour moi, il n'y a absolument aucun doute que le jeu vidéo héritier du jeu qui a une histoire millénaire est en capacité, évidemment, de générer ou en tout cas de se faire le facilitateur du vivre ensemble.
Et pour vous, personnellement, ça a été un...
Ah, même pour moi, absolument. Moi, j'ai... En fait, moi, j'ai des moments clés de ma vie se sont passés autour d'un jeu. De gens que j'ai rencontrés, soit parce qu'on était en compétition et que, résultat, on se rencontrait autour de cette compétition, s'apercevant qu'on était en capacité, justement, d'être compétitifs, mais d'être constructifs les uns avec les autres. Moi, j'ai eu la chance de jouer à Bourdoir, que tu citais plus tôt, donc à StarCraft en 99 avec des champions de France, où... Pareil, j'essayais de faire de la compète, etc. J'étais une daube sans fin, mais justement, on m'avait dit qu'il faut se taper la tête contre le mur et se battre contre des gens plus forts, se faire botter le train assez de fois pour devenir un peu meilleur. Et moi, j'ai connu des vrais moments d'affrontements un peu comme ça, de trucs un peu macho, mais en même temps, de tendresse vraiment, où il y a des gens qui passent des heures avec vous pour vous expliquer le jeu, pour vous expliquer la minutie, etc. Et donc, j'ai vécu absolument tout le range d'émotions. Je pense que beaucoup de gens dans la salle qui ont la trentaine à peu près ont joué à World of Warcraft. Je pense que dans World of Warcraft, il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait des petites amourettes en ligne, etc. On se fait...
Il y a eu des mariés. Hein, oui,
exactement. On se fait sur Internet et dans le jeu particulièrement, qui est vecteur de ce vivre ensemble, on se fait des amis, des amants, des amours. On s'y cultive, on y apprend des leçons. En fait, on y vit potentiellement des bouts de vie. Et y a, d'ailleurs, c'est ce que disait un peu Juliette aussi, mais il y a une phrase très célèbre de Fanny Ardant sur la lecture qui dit « Moi, je pense qu'on ne perd pas son temps en lisant. Au contraire, on gagne du temps parce qu'on voit des endroits qu'on n'aurait jamais vus. » Parce qu'on entend parler des gens à qui on n'a peut-être jamais parlé, ou peut-être même qui n'ont pas existé. Et donc, en fait, on gagne du temps de vie en faisant, à travers les médias, à travers la fiction, en faisant autre chose, en vivant autre chose. Et pour moi, le jeu, il a cette capacité-là. C'est exactement la même chose. C'est un art discursif au même sens que les autres.
Et vous aurez l'occasion c'est aussi un peu interactif quand même, on va essayer. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de cette table ronde dans quelques minutes aux intervenants, évidemment. Mister MV, streamer, compositeur de musique aussi pour les jeux vidéo. Ouais. Même question, pour vous, est-ce que ce jeu vidéo est synonyme d'ouverture aux autres ?
Oui, assurément, bien sûr, comme vous l'avez si bien dit. oui, moi, le jeu vidéo a fait partie de ma vie aussi intégralement. Moi, je suis né en 80, je suis entre des plus jeunes ici. Voilà, je suis un semi-vieux monsieur. Donc, à 5 ans, il y avait la Nintendo NES qui sortait. Et donc, depuis que j'ai mes 5 ans, Mario, Duck Hunt, à cette époque-là, ça m'a accompagné tout du long. Autant dans l'addiction, la folie que ça avait créé à la sortie de ce renouveau du jeu vidéo par le jeu japonais, puis dans plein de choses, la déscolarisation, mais pas par rapport au jeu vidéo, puis la resocialisation, puis l'arrivée d'Internet, le jeu en ligne. Les guildes sur Internet, les gens qui se rencontrent en vrai, qui partagent les histoires d'amitié, d'amour, les drames absolument humains, terribles. Et du coup, professionnellement aussi, vu que j'ai fait de la musique de jeux vidéo. Et enfin, c'est mon métier maintenant, mais en tant qu'animateur en direct, en train de faire des bêtises. Et notamment aussi dans le caritatif, donc avec justement ces mouvements solidaires qui s'organisent assez facilement dans le monde du jeu vidéo, tout simplement parce que déjà, le jeu vidéo, c'est très particulier, c'est-à-dire ça regroupe tout, c'est quelque chose d'interactif, donc il y a énormément de choses à prendre individuellement dans un jeu, mais ça reste quelque chose justement, moi, j'anime sur des parties de jeux vidéo en direct, justement, vu que le média est interactif. Et il y a beaucoup d'imprévus. Il y a des choses qu'on subit, il y a des choses où on prend le dessus et
justement,
on est
acteur. Oui. Expliquez-nous. On va mettre
des excuses d'avance.
Voilà.
Oui, voilà. Parce que
voilà des photos très anxiogènes. Ouais. Hein, on se rend compte.
Voilà. En fait, je m'étais dit. Je pense que pour la plupart des gens, être streamer, c'est juste jouer à un jeu vidéo. Genre,
Alors, il faut bien expliquer le dispositif. Hein. C'est un dispositif d'animation.
C'est très compliqué. Il y a 120 personnes derrière à chaque fois. Ouais. Mais en gros, oui. Être streamer, c'est pas juste, entre guillemets, mettre la webcam et je joue juste au jeu et je subis ma partie. Oh, paf, je me suis pris un but à FIFA, oh là là, prololo, c'est l'heure d'aller manger. Et donc, on fait d'autres choses, justement, comment transcender le jeu vidéo, bien entendu. Donc voilà, ça, c'est moi tout seul chez moi. Et donc, comment dire, je vais vous donner des exemples. Donc en haut à gauche, c'est une scène incroyable qui s'appelle la scène des coteaux. C'est un bureau, de centre d'accueil pour les adolescents en difficulté avec cette mère qui a l'air très inquiète justement pour son fils à côté, qui joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Et moi, je suis là, donc avant de jouer une partie, je lui donne moult conseils. On voit, voilà, je fais revivre l'enfant, évidemment, passionné de jeux vidéo en haut au milieu. C'est cet enfant... Qui communie avec ses parents.
Un peu barbu. Hein.
Voilà, il y a plein de choses. Bon, au milieu à gauche, c'est Jean-Dylan Bogdanov, un sosie raté de Didier Gustin qui chante du Claude François. Bref, il y a plein de choses. C'est un petit peu anxiogène. En bas à droite, c'était incroyable, ça. C'était le Tour de France en vélo d'appartement. C'est-à-dire, je refaisais tout le Tour de France, mais j'étais sur un vélo d'appartement épuisant.
Oui, j'imagine. 20 km, tous les jours.
20 km. Tension maximale sur le vélo d'appartement, c'était terrible. Mais en gros, voilà, et on est beaucoup de gens, et surtout en bas au milieu, on va en reparler, c'est le The Event, mais à chaque fois, il y a des milliers de spectateurs, et en gros, le partage est génial, parce qu'on se retrouve sur plein de choses, et le jeu vidéo est là, mais finalement, on se retrouve autour de plusieurs univers, de l'humour, du partage, parfois c'est plus dans l'émotion avec du caritatif, et dans l'humain.
Et il y a une communauté, ouais. Parce que il y a souvent ce mot est extrêmement récurrent dans le jeu vidéo. Ce mot communauté arrive là. Alors c'est pas le communautaire, hein, c'est bien le. Mais on pourra peut-être en parler s'il y a un aspect négatif. Mais il y a la communauté. On parle à sa communauté. Il y a des gens sont là, peuvent interagir, peuvent vous écrire des choses très gentilles et des choses extrêmement méchantes, j'imagine. Merci. Donc comment qu'est-ce que vous êtes le plus, c'est-à-dire animateur, vous répondez, c'est un SAV, enfin.
Je dirais que je suis joueur, animateur, éduxpé, confident, ami, amant, beaucoup de choses. Oui, parce que c'est vrai que selon ce qu'on présente, selon ce qu'on fait, on peut être amené à être plus dans le show, à vraiment présenter quelque chose, en faire des caisses. Si j'ai un jeu d'aventure un petit peu ridicule, avec des persos un peu bizarres, bah, je m'amuse à doubler tout le monde et finalement ça devient plus... ça devient du divertissement pur et dur. Ou bien, si on est sur une ambiance plus posée, là, je discute énormément avec les gens et on échange. Donc, c'est du jeu vidéo, oui.
Mais qu'est-ce qui est le plus plaisant, alors ? Est-ce que c'est cette interaction avec la communauté ou finalement le jeu ? Parce que qu'est-ce que vous cherchez ? Parce que cette communauté, elle est ultra présente, c'est basé là-dessus.
Je pense qu'il adore que les gens fassent des mèmes sur lui et qu'ensuite, ce soit dans le chat.
Oui, non, c'est rigolo. Bah, quand il commence à avoir beaucoup de gens dans un salon de discussion, c'est plus difficile à contrôler. Donc, oui, il y a plus ces mouvements de masse, c'est plus axé sur l'humour. On a des discussions, on va peut-être dire un peu moins... profonde et personnelle qu'on a quand on a peu de gens avec nous. Mais on se sent quand même investi de quelque chose d'important. Je fais énormément de bêtises, mais j'essaie de maîtriser quand même un maximum. Non, voilà, les sujets sensibles, comment les aborder. Parce que je sais que maintenant, je drive à chaque direct. Il y a des milliers de personnes qui viennent, qui vont avoir un âge entre, j'imagine, 14 et 50 ans, peu importe. Mais voilà, il y a des plus jeunes maintenant qui sont arrivés. J'avais déjà une base, on va dire, un petit peu gaucho trentenaire énervé à l'époque. Maintenant, c'est
un peu France Insoumise, c'est ça. Et après,
mais
c'est...
là, ouais, on s'est beaucoup plus ouvert, évidemment. Ouais. C'est la France de Macron. et voilà. Mais oui, et on essaye donc, ouais, on est conscient qu'on a une responsabilité. Il faut essayer de le faire bien. Voilà, c'est de l'humour, mais on essaye de faire des belles choses et de dire aux gens que ça reste avant tout quelque chose de comment dire, de bienveillant, le monde du jeu vidéo, il faut que la salle soit.
Kayane, vous avez vu monter le e-sport,
oui.
Parler de communauté. Là, on a les gens en live, c'est-à-dire que ce n'est pas en ligne, c'est en live, ils sont là, ils sont devant, ils peuvent crier, ils peuvent hurler, ils peuvent être pour votre adversaire ou contre vous. Fin...
C'est très rageant quand c'est pour l'adversaire.
J'imagine.
Maintenant, les casques sont bien développés pour qu'on n'entende presque rien autour. Mais...
Du coup, là, c'est très communautaire, ce e-sport.
Ah oui. En fait, avant même qu'on appelle cela de l'e-sport... On traînait sur des forums communautaires. Il n'y avait pas encore Facebook, Twitter et autres. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On traînait tous sur des forums, pour moi, de jeux de combat. Et puis, il y avait plusieurs sections par jeu, par personnage. Et tout le monde faisait des posts dessus. On postait avec un avatar. On essayait d'avoir l'air beau gosse à travers un avatar ou belle gosse. Je pense qu'il y en a plein qui mettaient des avatars très stylés de personnages de jeux vidéo, de mangas qu'ils adoraient. Mais finalement... On ne restait pas juste sur Internet. Après, les joueurs se réunissaient sur des vrais événements offline. On se voyait IRL. Et dans un jeu de combat, même tout jeu compétitif, pour progresser, on ne peut pas jouer juste tout seul chez soi. On est obligé d'aller aux événements, rencontrer du monde, apprendre des autres, avoir les conseils des autres et puis finalement avoir de l'expérience, donc participer au tournoi. Perdre, gagner, c'est ça aussi qui nous fait grandir dans le jeu, en société. Et finalement, c'est là que j'ai rencontré énormément d'amis du jeu vidéo.
D'accord.
Ouais.
Il y en a toujours qui sont...
C'est, la communauté ne se perd pas, elle évolue même sur les réseaux sociaux maintenant. Et on parlera toujours de communauté parce que dans chaque... jeu vidéo. Dans chaque jeu compétitif, il y a sa propre communauté qui ne ressemble à aucune autre. Et ce qui nous a rassemblés, c'est vraiment ce jeu-là. Ce jeu particulièrement, pour moi, ça a été Soul Calibur particulièrement. Et on va parler d'une communauté de Soul Calibur, des joueurs de Soul Calibur. Et c'est ce qui nous rapproche. C'est aussi un prétexte, encore
une
fois.
C'est une culture.
Et voilà.
Non ? Est-ce qu'on peut parler de culture, Oscar Mann ?
Oui, absolument. Enfin, là, pour le coup, pour chacun des jeux compétitifs, qui sont tous très, très différents, on retrouve d'ailleurs... des cultures spécifiques à chacun des jeux qui parfois se détestent. Il y a des jeux qui sont très très proches. Vous avez peut-être entendu parler de Dota et de League of Legends qui sont franchement pas mal proches. Moi je joue à Dota, j'ai 2000 heures de jeu sur Dota, donc clairement pour moi les gens
c'est
qui
beaucoup.
Jouent avec League of Legends c'est tous des nuls. ne vous sentez pas visé. Mais dans ces jeux-là, en fait, dans chacun des jeux, on va retrouver des plaisirs qui sont des plaisirs très humains et très profonds. Donc si on veut relier ces jeux-là, on peut facilement les relier au reste de la culture, en fait, parce que sur scène, on a quelqu'un qui, à l'intérieur d'un ensemble de règles, va interpréter quelque chose pour donner un spectacle. Et ça, ça ressemble à du théâtre d'improvisation, en fait. Et donc, résultat, on retrouve des plaisirs qui ressemblent aux plaisirs du théâtre. Je vais prendre un exemple idiot. Si vous connaissez League of Legends, dans League of Legends, il y a deux équipes. Chacune d'elles ne voit qu'une partie du terrain. D'accord. Mais nous, spectateurs, voyons les deux équipes et on voit tout le terrain. Donc, quand il y a une équipe qui va tomber sur le gras d'une autre équipe et qui est en train de lui tendre un guet-apens, nous, on le sait. Et on a une espèce de truc d'impuissance où on a envie de les prévenir ou de leur crier « Non, va pas là, va pas là !» Et en fait, on ne peut pas. Et ça, c'est pas mal vieux, en fait, comme frustration. Parce que dans Oedipe, le fait que il va buter son père, pour ne pas parler de la deuxième partie de la pièce, mais il va buter son père dans pas longtemps. Nous, on sait que c'est son père. On sait qu'il est en train de... que ça commence à chauffer entre eux. Et on a envie de lui crier « Non, non, pas là, fais pas ça !» Et en fait, ce différentiel d'information entre nous, spectateurs, et eux, acteurs de ce qui est en train de leur arriver, ça crée une tension, et cette tension qu'on appelle l'ironie tragique, en théorie du théâtre... C'est une tension qui prédate très très largement les jeux vidéo, en fait. Et donc, dans tous ces jeux, que ce soit les e-sports ou que ce soit le reste des jeux vidéo, ou les jeux dans lesquels on trouve des spectateurs qui regardent quelqu'un qui joue, on retrouve ces mêmes plaisirs et ces mêmes circuits du cerveau, en fait, qui s'activent pour exciter les gens.
Vous citez quand même le théâtre, vous citez les dames, enfin les échecs. Mais est-ce que le jeu vidéo supplante tout ça, finalement ?
Peut-être
pas le théâtre, mais en tout cas, de manière populaire, si ce n'est le mot et le verbe est trop fort, c'est pas remplacé. Mmh. Enfin, on prend beaucoup de largesse et de manière populaire aujourd'hui dans cette espèce de moteur d'ouverture aux autres.
Bah en fait, le jeu vidéo, il est c'est un terme assez bordélique dans lequel on regroupe énormément de choses qui parfois sont pas forcément là pour remplacer, mais qui sont là comme virtualisation ou en tout cas mise à un niveau un peu différent. Les échecs, super exemple. On prend les échecs. Est-ce que les échecs jeux et les échecs jeux vidéo, c'est deux objets qui sont en substance différents. Et ça, c'est super dur. En théorie du jeu, on dit que non, on dit que c'est le même objet. Par contre, on s'aperçoit que ça crée des socialisations différentes entre deux personnes qui sont face à face, deux personnes qui chattent, deux personnes qui peuvent se tancer virtuellement. Et c'est la même chose pour le théâtre. Le théâtre, effectivement, dans un théâtre où on est physiquement sur scène, ça crée un effet très différent de quand on est dans World of Warcraft et qu'on est en RP, donc en roleplay, en train de jouer son rôle. Donc je joue le rôle de mon personnage, où je joue un gnome sociopathe qui est obsédé par les explosifs. Ce n'est pas du tout inspiré de faits réels. Je joue ce personnage à fond et je joue un rôle de théâtre à l'intérieur d'un jeu. Et donc, il ne supplante pas le théâtre, il n'est pas là en train de remplacer le théâtre, il en donne juste une virtualisation, une autre vie, une autre version lecture, en fait, finalement.
On va passer à une ouverture aux autres côté caritatif, parce que là aussi c'est assez étonnant. Je vais vous proposer un tweet, je parlais d'un tweet de Françoise Nyssen tout à l'heure, la ministre de la Culture, on va passer à un tweet d'Emmanuel Macron, le président. Voilà, bravo et merci à toute la communauté The Event qui a permis de lever plus de 450 000 euros pour la Croix-Rouge suite à l'ouragan Irma.
On voit que c'est un homme qui est vraiment, qui n'aurait pas pu lui-même mettre 450 000 euros pour la Croix.
Tu crois? Et là, bon, en lien, donc en pièce jointe avec le tweet, Zerator, The End, The Event. Donc je vous propose de regarder ces quelques secondes qui ont terminé ce marathon gaming qui a récolté donc plus de 450 000 euros.
Voilà, on a organisé ça, ça a tenu comme ça a pu. On est là depuis vendredi 20h et c'est la fin de l'événement. On espère que vous avez tous apprécié. Elinra, tête de tigre, les t-shirts! S'il te plaît, pour la cagnotte, mesdames et messieurs, le chiffre final levé de The Event est de 451 851,18 €. Bravo à tous. Parce que c'est notre projet. Merci à tous, c'est la fin du live, je vais faire un AVC, je vous aime. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont déplacés, ouais. C'était un bonheur de vous avoir ici. J'espère que vous avez tous kiffé l'événement. Merci à tous ceux qui ont organisé, merci les gens qui sont là. Merci à vous, partout, vous l'avez fait gagner. Merci beaucoup, ciao, bye bye, à bientôt.
À bientôt.
Donc finalement, l'influence d'Emmanuel Macron, décidément...
J'avais un peu lâché, j'avais un peu lancé la vanne de Macron parce que j'avais un son d'alerte, c'était le notre projet à 800% de volume. Et là, c'est un peu resté, on lui a dit après, oui, bon, peut-être que pour le discours de clôture, on aurait pu éviter de le politiser malgré nous, mais bon. Voilà.
Bon, c'était il y a un mois, je crois, un peu plus d'un mois, le 10 septembre. Comment ça s'est passé, parce que vous avez participé, Mister MV, à ce marathon gaming absolument hors norme, j'allais dire.
C'est une pratique qu'on retrouve depuis assez longtemps. C'est vrai qu'en France, on n'avait pas encore d'exemple qui a eu ce genre de succès, mais on a deux fois par an les Games Done Quick aux États-Unis, par exemple, qui lève 2 millions de dollars à chaque édition. Donc, en début d'année, c'est contre le cancer et assistance aux malades. Et en été, c'est Médecins Sans Frontières. Il y a le Desert Bus. Enfin, il y a plein d'événements de ce genre.
10 ou 12 novembre, hein, le prochain Desert Bus.
Il y a une version française, depuis plusieurs années maintenant.
Desert Bus, c'est un event dans lequel les gens jouent au jeu le plus chiant de la planète pendant des heures pour récolter de l'argent.
Il y a une mouche qui apparaît à un moment.
Exactement.
On conduit un bus de la côte est à la côte ouest. Et le bus dévie très légèrement vers la droite. Il ne faut pas toucher le bord de la route, sinon c'est fini, le jeu s'arrête. Et qu'il faut recommencer toute la route de cette côte est. Mais il n'y a pas d'autre but que d'aller sur cette côte ouest. Voilà, c'est très ennuyeux. Rien que le raconter, c'est ennuyeux, mais c'est
même on pourrait croire qu'on est sur une route, il va y avoir des bagnoles. Il n'y a rien du tout qui se passe. C'est chiant à crever.
Faut tapoter six fois vers la gauche pendant l'heure et puis on reste sur la route.
L'année dernière, ils ont récolté un peu plus de 40 000 euros, je crois, pour l'événement français.
C'est ça, et à l'édition américaine, ouais, par le passé, ça aussi, ça fait des sommes absolument délirantes. Mais oui.
Donc, comment s'est passé ce marathon gaming?
Alors, pour le coup, c'est surtout Zerator et Dash qui ne sont pas là, mais Zerator qui a lancé l'organisation en amont. Ça faisait plusieurs mois déjà. À la base, alors ça s'est fait avec la Croix-Rouge, parce que le contact s'est bien déroulé. Alors, souvent, quand on organise des événements caritatifs, c'est souvent le retour de l'ONG ou l'association qui va beaucoup jouer, parce que vous pouvez vous dire « Oui, je vais soutenir cette cause, c'est génial !» Et puis vous appelez à la SOS, et là, il y a une secrétaire qui vous dit « Non, excusez-moi, jeu vidéo !» Et puis bon, ensuite, voilà, il ne se passe rien, donc il faut trouver des gens qui sont disposés à vous écouter et à vous aider, que ça soit de manière juste logistique ou de soutenir, juste de dire « Ok, faites-le, on est avec vous », de sentir qu'il y a un retour. Donc voilà, ça joue aussi beaucoup. Donc la Croix-Rouge, ça s'est bien passé pour Zerator et Dash. Ils ont relayé le projet, ils ont amené du matériel, ils ont filé des tables, des choses pour que tout le monde s'organise, parce que oui, c'était quand même une logistique... balèze à base de, oui, 30-35 personnes dans un sous-sol, être sûr que l'électricité soit pas en surcharge à n'importe quel moment, enfin plein de choses de ce genre. L'histoire, l'actualité a voulu qu'il y ait eu Irma entre-temps, donc Zerator a demandé quelques jours avant, est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ce qu'on va réunir pour la cagnotte Croix-Rouge aille directement aux victimes d'Irma, donc ça s'est fait comme ça.
Donc vous avez streamé, voilà. En fait.
Donc voilà, en fait, là où beaucoup d'événements en général se réunissent sur un unique flux, une unique chaîne Twitch pour diffuser, là, c'était vraiment les 30 personnes lançaient leurs 30 chaînes respectives. Juste, ce qui était rigolo, c'est que oui, on pouvait interagir les uns les autres, donc tout le monde allait squatter chez l'un, chez l'autre, etc. C'était la cuisine, quoi, se faisait sur place. Et en cumulé, oui, je ne sais plus, en cumulé, on a dépassé les 100 000 spectateurs à certains moments. Zerator, il y a des chiffres qui sont un petit peu... débilos, notamment le match de FIFA que je fais contre Zerator où on fait un match de FIFA Orléans contre Bourg-en-Bresse et on se retrouve à 37 000 spectateurs en direct, c'est à plus qu'un stade de Ligue 2 finalement pour un match de deux Kekos qui ont joué deux fois à FIFA de leur vie. Bon, voilà. Donc il se passait ce genre de choses, des gens qui donnaient parfois 1 000 euros plus d'un coup, etc. Vraiment Donc, en gros, voilà, quand on organise quelque chose de genre, il y a un but qui est noble. L'intégralité de l'argent va à cette cause. L'idée, c'est... on vient de la communauté du jeu vidéo, donc c'est aussi de gamifier un petit peu cette chose-là, c'est-à-dire, là, il est à 19h, si on arrive à 100 000 euros avant 21h, on fait tout ça, on fait des trucs, c'est de trouver... on fait un peu ce qui se passe maintenant dans la vie réelle avec un peu tout. Tout le monde, entre guillemets, c'est un peu de gamifier sa vie, c'est-à-dire... Mm-hmm. Pour se motiver à faire des choses, on va souvent rendre les choses plus ludiques, se donner des buts ou se laisser essayer de mettre du plaisir un peu partout pour se motiver, on va dire. Et c'est le cas avec le jeu vidéo qui, historiquement, de toute façon, les joueurs ont toujours été extrêmement généreux pour ce genre de cause. À chaque fois, le retour sur du caritatif est instantané.
Là, c'est incroyable parce que ça vous a dépassé mais dépassé dans le bonheur, là j'entends, ouais. dans le plaisir, c'est incroyable. Oui, il se passe un moment incroyable, c'est-à-dire ça, à ce moment-là, il se passe un moment incroyable.
Et ouais, non, c'est vraiment fou. Moi j'avais été de longues années auparavant, j'organisais de manière non officielle puis officielle les retransmissions françaises d'événements américains déjà. Donc j'ai vu des événements américains passer de 10 000 dollars pour une association, pour une ONG, à maintenant 2 millions à chaque fois pour Médecins sans frontières et compagnie. Donc quand on a commencé, j'avais plus ou moins dit bon, alors là, il va sûrement y avoir 300 000 puis 400 000 là, faudra bien rusher à la fin, si, qui sait, on ira à 500 000. Finalement, j'étais très proche de la vérité. Bon, peu importe, hein, c'est cool comme pronostic, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a cet effet boule de neige parce que c'est tout le monde a envie dans ces moments-là.
entre guillemets, les gens vont parfois en faire des caisses et dire qu'on essaye de redorer aussi par ça l'image du jeu vidéo. C'est vrai que ça a été repris dans les médias, voilà, ah, incroyable, il ne faut pas que manger des pizzas, évidemment, et se coucher à 7h du matin. Mais,
enfin, on le fait aussi quand même, faut être honnête.
Ouais, bien sûr qu'on le fait, mais bon, ça, voilà, ils n'ont pas à le savoir. Et, mais bon, la réalité, oui. C'est vrai. Ensuite, chez les joueurs de jeux vidéo, il y a plein de défauts également, comme chez tout le monde. Hein, c'est pas idyllique, mais toujours dans ce genre d'événement, en tout cas, les gens donnent vraiment sans compter, sont hyper enthousiastes pour relayer, etc. Parce que c'est une communauté. Les joueurs en ligne sont habitués à toujours interagir ensemble, à commenter tout sur Twitter, sur Facebook, à alimenter tout et n'importe quoi à chaque news. Donc ça va très très vite, l'effet boule de neige est hallucinant, c'était très rigolo de voir BFM arriver en mode « oui, incroyable, me saouler pendant 10 minutes alors que j'étais en train de jouer et dire des bêtises ». Évidemment, il y a eu un plan de 2 secondes dans le reportage, mais c'était rigolo de voir tous ces médias traditionnels venir et ça n'arrêtait pas. Genre Zerator, c'était toujours la radio, la presse, la télé qui passait. Et c'est bien, et surtout, oui, c'est vrai que là où on critiquait un peu l'effort national à ce moment-là, donc bon, C'était cool, on va dire.
En tout cas, Juliette en parlait effectivement avec des mots élogieux. Kayane, question, on a parlé du jeu vidéo qui s'ouvre aux autres. Est-ce que le jeu vidéo est porteur de valeur pour vous ?
Complètement. Moi, j'ai commencé avec mes frères, mais ce qu'ils m'ont apporté comme valeur, c'est beaucoup de rigueur pour m'entraîner durement pour arriver à faire gagner mon personnage de cœur en tournoi, à m'entraîner dur avec et participer aux événements, etc. J'ai appris l'entraide, mes frères, et ensuite j'ai été aidée. J'étais comme la petite sœur de tout le monde dans la communauté et tout le monde m'a aidée pour progresser. Et ça, je m'y attendais absolument pas parce que je ne savais juste pas à quoi m'attendre en allant aux événements comme ça. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été super accueillants avec moi. Et finalement, les valeurs qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo se rapprochent aussi du sport. Quand je dis qu'il faut être fair-play envers ses adversaires...
Il faut essayer d'être fair-play.
Il faut essayer d'être fair-play.
Moi, ça, je parlais de moi. J'essaye d'être fair-play, mais j'y arrive pas.
Mais oui, il y a toujours des rageux aussi. Moi, j'en ai eu plein. Hein. Vous vous en doutez. J'étais une petite gamine de 9 ans qui va en tournoi et qui termine vice-championne de France à son premier tournoi alors que personne ne la connaissait et que mon pseudo a failli être Marie Sakura. Dû au fait que je regardais Chasseuse de cartes, Sakura. Mais j'ai changé, c'est Kayane. Ça n'a pas été Marie Sakura. Je savais d'avance que ça faisait un peu pitié. Donc voilà. Mais j'ai été vraiment surprise de cet accueil-là. Et finalement, comme tout ce qu'il y a autour des jeux vidéo se rapproche aussi de la structure du sport, on a des associations qui organisaient les événements. On a des partenaires, des sponsors, etc. Ça fait que voilà, les joueurs, quand on les voit, on a l'impression d'avoir des athlètes, des e-athlètes. Il y en a qui sont tellement
pour
professionnels.
Pour vous, c'est ces valeurs-là, en tout cas, la valeur de sportivité, en tout cas.
Énormément des sportifs. Et là où ça se différencie aussi du sport, c'est qu'il n'y a pas de distinction physique entre les hommes et les femmes. Moi, je participe aux tournois mixtes. Et il n'y a que des tournois mixtes, en fait, dans les jeux de combat, à part dans certains jeux comme Counter-Strike, où il y a des tournois féminins. Mais voilà, on peut affronter n'importe qui, enfant, homme, femme, mes grands-parents, si on veut. Il n'y a vraiment pas de distinction à faire. Et tout le monde peut être accepté comme il est.
Oscar Barda, est-ce que le jeu ouvre aux autres, mais est-ce qu'il est porteur de valeur lui-même ? Alors je parle du jeu vidéo, là.
Dans le but évident d'aller au clash et de faire 1 million de vues sur YouTube, je vais dire que le contraire. Moi, je pense que le jeu, intrinsèquement, ne porte pas de valeur. Le jeu, il est discursif, et avec du jeu, on peut vraiment faire de la merde, et on peut vraiment faire des choses merveilleuses, comme on peut faire avec des livres. Je ne sais pas si vous avez vu des films de propagande de la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a qui sont vraiment pas piqués des hannetons. Ouais. Donc, avec les films, on peut faire des horreurs et on peut faire des merveilles.
On peut dire des deux, d'ailleurs. Il y a Leni Riefenstahl, donc, qui est une réalisatrice allemande, ouais, nazie, hein, on va le dire, en tout cas qui a beaucoup travaillé par les nazis, mais qui peut être aussi appréciée, entre guillemets, son travail peut être aussi apprécié par les critiques. Du coup, elle a une double carte.
Voilà, exactement. Pardon, je te coupe. Non, pas du tout, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le jeu vidéo est en capacité, dans son discours, d'avoir des valeurs inclusives, des valeurs merveilleuses de l'humanité, de contact à l'autre, Exactement, générosité. De générosité, de diversité, de rapport à l'autre dans l'égalité, etc. Et il peut avoir des valeurs horribles. Enfin, on peut faire des jeux.
Certains jeux japonais, je pense que vous en connaissez certains. Où en effet,
il y a des jeux qui parlent de viol.
Il faut déshabiller les femmes, vos camarades de classe. Il faut qu'elles se retrouvent presque à poil pour terminer le jeu. Mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en effet, moi, je parlais plus que c'est la communauté qui apporte les valeurs, pas forcément le jeu en lui-même. Ça, c'est sûr. Moi, j'en ai vu des jeux japonais tentaculaires.
Bizarroïdes. Oui.
Non, mais c'est sûr qu'en fait, dans le jeu, on peut avoir... des gens qui vont avoir des logiques hyper prédatrices dans la monétisation, qui vont faire un jeu pour enfants et qui vont demander à des enfants aller chercher la carte de papa-maman et payer 2000 balles pour avoir un chapeau sur votre pingouin. Ça existe, et donc il faut juste pas s'aveugler sur le fait que le jeu ce soit toujours super merveilleux. Le jeu, c'est un média parmi d'autres médias, et en tant que média, il a un rapport de discursivité au monde qui réclame qu'on soit exigeant avec lui sur les valeurs qu'il peut porter, qu'on blague pas sur le fait que dans le monde du jeu vidéo et des gens qui fabriquent des jeux vidéo, il puisse y avoir des problèmes. En ce moment, on parle beaucoup du harcèlement, le jeu vidéo n'y échappe pas. Et donc, l'ensemble de tous ces problèmes, le jeu vidéo n'y échappe pas. Il est également, et je pense...
Il fait partie du monde, donc de toute
voilà,
façon...
Voilà, mais moi, j'ai été game designer, j'ai fabriqué des jeux pendant quasi 10 ans. J'ai essayé de faire des jeux qui étaient des jeux qui parlaient du monde et qui en disaient des choses sur la curiosité, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à la musique, etc. On peut faire des choses merveilleuses avec les jeux, mais je ne pense pas qu'ils aient des valeurs intrinsèquement bonnes ou mauvaises, en fait.
Mister MV, question, est-ce que le jeu vidéo, vous, ça vous a ouvert? On parlait d'ouverture aux autres, mais moi, ce qui m'intéresse peut-être aussi, c'est l'ouverture à d'autres cultures. Est-ce que ça vous a donné envie de lire des livres ou d'aller au cinéma pour aller croiser le style de certains auteurs? Est-ce que ça vous a donné envie d'écouter de la musique, d'autres musiques, d'autres compositeurs? Bref, est-ce que le jeu vidéo peut lui aussi s'ouvrir et ouvrir les humains vers d'autres cultures que lui-même?
Sûrement, comme d'autres cultures. Enfin, c'est le jeu vidéo maintenant.
Parce que effectivement, le jeu vidéo est souvent décrit comme une communauté assez fermée et qui ne parle que d'elle-même et pour elle-même et par elle-même. Mais est-ce que c'est pas totalement faux? Enfin, en tout cas, en partie faux. Est-ce que finalement, plus on joue au jeu vidéo, plus on a envie de lire, ou plus on a envie d'aller au cinoche, ou plus on a envie de consommer des séries. Bref, dans l'univers qui nous intéresse, mais quand même de s'ouvrir à d'autres cultures.
Je sais que moi, j'ai grandi avec une utilisation assez intense du jeu vidéo et je suis vraiment resté bien dedans. Ensuite, je suis arrivé en étant joueur hardcore, puis par la musique, où j'ai bossé en tant que musicien dedans. Musicalement, ça m'avait fait une porte d'entrée, bizarrement, le jeu vidéo, pour ensuite m'évader et ensuite même à un moment renier la musique de jeu vidéo pour y revenir, enfin bref, etc. Mais... surtout que maintenant, le jeu vidéo, croise tout. Enfin, je veux dire, on a tout ce qui sort en série, tout ce qui sort en manga, tout ce qui sort en animé, en film, se retrouve dans le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo faits de films, il y a des films faits de jeux vidéo qui sont tirés de films. Bon, bref, tous ces mondes-là se croisent.
Il y a le très célèbre Prince of Persia, le jeu, adaptation du film, adaptation du jeu, adaptation du livre des Mille et Une Nuits.
D'accord.
C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que, j'imagine que ça dépend des gens. Le portrait qu'on peignait plus ou moins des joueurs à une certaine époque, c'était qu'en effet, c'est très, très monomaniaque, on restait dedans. Maintenant, je pense que c'est juste à l'approche de chacun. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des comportements d'addiction envers n'importe quoi, que ce ne soit pas juste le jeu vidéo. Il y a des passions qui vous prennent à la gorge et puis vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a assez de choses dans le jeu vidéo. Pour moi, justement, je l'utilise comme support pour ce que je fais dans mon activité. Et en plus, moi, je me suis intéressé aux acteurs et divers de chacune de ces particules, entre guillemets, que ce soit artistique, design, graphisme, musique, code, l'aspect business et compagnie. Donc tout ça, j'ai vu... chaque chose m'intéresse individuellement aussi, donc ça m'a permis de découvrir des nouveaux artistes qui, eux-mêmes, m'ouvrent vers de nouvelles perspectives. Maintenant, on retrouve de la musique aussi... de la musique pop ou de la musique de film dans les jeux, donc ça peut... Enfin, il y a plein de choses qui se croisent. Si on est curieux, c'est la curiosité juste de base. Je pense que si quelqu'un est curieux,
son approche du jeu vidéo ne restera pas confinée juste dans le tunnel de je joue à ça.
Le tunnel chronophage de le jeu vidéo voleur de temps.
Il restera chronophage. Il y a toujours des épisodes.
Le jeu vidéo est chronophage.
Quand on se passionne, quand il y a un élément, un jeu en particulier qui vous passionne, vous allez vous lancer dans le tunnel, mais c'est quelque chose qui se renouvelle continuellement. Donc,
Oscar Bardin.
Non, juste. Qu'est-ce qui ne l'est pas chronophage juste sur la planète Terre?
Non, mais il faut quand même dire qu'il peut y avoir des nuits. C'est un peu comme la littérature. Alors c'est vrai qu'on peut manger des séries toute une nuit, mais le jeu vidéo, on peut vraiment voir le temps ne pas passer du tout. C'est-à-dire qu'on allume StarCraft et puis à 22h et puis il est 8h du mat. Et puis vraiment,
ça
me l'a fait, voilà. Mais c'est moins.
Exactement. C'est vrai que maintenant là, on est un peu là. Maintenant, c'est Netflix le gros truc depuis 2-3. De 3 ans, facile.
L'enchaînement automatique des séries.
Et voilà, quoi ? Là, le 27, là, combien de personnes vont se mater les 10 Stranger Things de suite ? Ouais, génial, j'ai pas dormi, quel con ! Incroyable !
Non, mais Harry Potter, ça m'a fait la même chose. Hein, moi, j'ai enchaîné les livres mode je me lève à 6h, c'est pas clair.
Les marathons, Seigneur des Anneaux, et j'en passe. Bref, c'est sûr qu'on peut faire une fixette sur beaucoup de choses. Je pense qu'on sort quand même de ça, notamment parce que c'est moins ghetto maintenant. Ensuite, c'est aux gens de.
Moins enfermé, mais Kayane, ça vous a ouvert à d'autres cultures, d'autres arts.
En fait, la rencontre avec les joueurs du monde entier, ça m'a donné l'envie dès mes 12 ans, quand j'ai participé à mon premier tournoi mondial, de parler anglais déjà. Et ensuite, de m'intéresser aux cultures de mes amis étrangers et même de voyager plus tard. Donc, j'ai voyagé énormément. Je me suis intéressée finalement à la culture d'autres pays que la française. Et j'ai été au Japon, au Brésil, aux États-Unis. J'ai voyagé énormément pour ça. Et finalement, j'ai découvert énormément de choses. Les cultures de chaque pays. Bon, déjà, aux États-Unis, ils sont davantage dans les comics. Au Japon, dans les mangas, les animés. Et finalement, j'ai dû consommer un peu de tout, finalement, des séries, des films, de chacun des pays où je suis allée pour m'intéresser et découvrir davantage. Ouais.
Clash Buzz, Oscar Barda, ou sur...
que dalle.
Sur le jeu vidéo qui donnerait finalement envie par effet domino d'aller vers vers d'autres et d'aller vers d'autres cultures.
Moi, pour le coup, j'ai une expérience un peu spécifique parce que ma maman travaillait au Centre Pompidou pendant 30 ans, je crois, un truc comme ça. Elle restaurait les œuvres d'art, donc j'ai eu très tôt un rapport à l'art et aux arts en général très très proche. Mais dans l'absolu, en fait, moi, j'ai fait de mon métier game designer. Et le game designer, c'est la personne qui donne quelque chose à faire à l'autre, en fait. D'accord ? Donc, je fais les règles du jeu. Et quand je fais les règles du jeu, je vais vous donner à jouer le gros capitaliste au Monopoly. Je vais vous donner à jouer l'enchaîneur de mots au Scrabble. Je vais vous donner à jouer le chef de bataille à Risk ou à StarCraft. Donc, moi, je donne à faire quelque chose aux autres. Et je ne peux pas donner à faire, je ne suis pas en capacité de donner quelque chose à faire si je ne l'ai pas consommé avec un peu de sincérité. Donc moi, ça m'a obligé en fait à aller... j'ai été bûcheron, j'ai été écrivain, j'ai été designer de site. J'ai essayé de faire un millier de métiers parce que je commençais en mode « Ah, ça m'intéresse, ça a l'air marrant » et je fais ça pendant 6 mois de ma vie. Quoi. Donc cette logique-là en fait de se dire... Si on fabrique un jeu, si on rendait ça jouable, si on en faisait un truc interactif que je donnerais à faire aux gens pour essayer de leur exprimer pourquoi cette activité, elle est sincèrement et profondément intéressante ou excitante, moi, ça, dans mon métier, en tout cas, ça m'a obligé à faire un milliard de trucs, à m'ouvrir à des arts. Quand j'avais 9 ans, on m'a emmené voir du théâtre no japonais. C'est le truc le plus chiant de la planète pour un enfant. Exactement. Il y a certains adultes aussi qui... mais en gros, si tu veux, il a fallu que je grandisse, qu'il y ait un théâtre japonais qui me commande un jeu spécifiquement sur le no pour que j'aille en revoir et que je lise dessus et que je comprenne pourquoi c'est intéressant. Donc, absolument, mais j'ai une position très spécifique là-dessus, qui est celle de la création, qui m'ouvre à un million, à tous les arts et toutes les expressions humaines possibles et imaginables. Mais je pense que tous les jeux qui s'inspirent d'un mouvement artistique, qui donnent à faire quelque chose, peuvent être des ouvertures vers cette chose-là. De la même façon que, qui n'est pas sorti de Ninja Kids quand on était petit en faisant genre « Waouh, je vais être un ninja. Personne, soyons honnêtes.
Tu as fait 6 mois ninja, c'est ce que tu essaies de nous dire en fait.
Je ne fais pas de Hadoken, je vous rassure, ni de Shuriken dans la vraie
jamais
vie.
Jamais devant le miroir
Non, quand on me le demande, parfois.
Non, mais juste pour dire que quand on donne quelque chose à faire en sincérité, pendant longtemps, les gens peuvent le prendre à cœur et c'est l'espoir qu'ont tous les artistes, je pense. C'est que les gens prennent leur jeu, enfin tous les gens qui font des jeux, ils ont espoir que les gens prennent leur jeu à cœur. Et donc ça peut mener vers plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui Assassin's Creed en classe, comme c'était cité plus tôt. On utilise les jeux pour faire comprendre à des gens qui n'y ont jamais touché, enfin qui n'ont jamais touché à tel pan de la culture, que ça peut être intéressant.
Bah, il est temps de s'ouvrir à vous. Je ne vous vois pas beaucoup mais, dans la salle. Mais,
alors, il y en a plein qui s'appellent Réservé, apparemment.
Oui, il y a plein de gens qui s'appellent Réservé. C'est un joli nom.
Ils sont tous au premier.
Donc je vais, on va ouvrir une plage questions-réponses. Donc si vous avez des questions dans la salle, c'est avec plaisir. N'hésitez pas. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Bonjour.
Bonjour. Pascal Parole pour Rox Army. On a présenté le jeu vidéo comme étant un média, selon Oscar, selon un loisir. Ici on est dans le cadre du CNC. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un art au même titre que le cinéma?
Bon, moi j'ai ma réponse, mais qui veut répondre à la question qui est
On peut débattre infiniment de ce que c'est qu'un art et ce que c'est pas qu'un art. La difficulté du débat sur est-ce que c'est un art, c'est l'art, c'est un. En fait, il y a des objets qui ont des définitions physiques et des mots que les humains mettent dessus. Genre ça, c'est un ordinateur. Et on a décidé que les ordinateurs, c'était ça. Si du jour au lendemain, je dis ça, c'est une planète, ou ma veste, ça s'appelle maintenant un ordinateur, c'est. Ça ne va pas changer l'objet lui-même, d'accord ? L'objet lui-même, la veste, elle gardera les mêmes caractéristiques, on aura juste changé le nom qu'on a mis dessus. L'art, c'est plus difficile parce que c'est le mot qu'on met sur une catégorie de choses définit les choses qui sont à l'intérieur. Et elles n'ont pas des caractéristiques physiques spécifiques qui sont indépendantes du mot art ou non. D'accord ? Donc s'il y a bien un truc que tous les historiens de l'art, sur lesquels tous les historiens de l'art sont tombés d'accord depuis un paquet de temps maintenant, c'est tout n'est pas de l'art, mais il n'y a rien qui, dans le bon contexte, ne puisse être appelé de l'art. Et donc, le jeu vidéo a fortiori, dans le contexte donné de l'art, dans le contexte donné de « il est créé par un artiste, il est expressif, il raconte quelque chose », c'est, pour le coup, de l'art au sens absolument premier du terme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de définition de l'art, sauf à faire des définitions exclusives un peu débiles, genre l'art, c'est la peinture, la danse, etc., mais pas le jeu vidéo. Ça, c'est une définition exclusive un peu débile. Donc, sauf à faire des définitions exclusives, on ne peut pas exclure le jeu de l'art, parce qu'on ne peut pas l'exclure du champ des disciplines discursives des humains.
Voilà, et puis autre souci pour lui, puisqu'on est dans une table ronde jeux vidéo et société, l'art a besoin que la société le reconnaisse comme art, c'est-à-dire que le nomme. Si aujourd'hui, c'était une étude de l'an dernier du ministère de la Culture, je crois, qui disait que seuls 7% des Français reconnaissent le jeu vidéo comme une culture. Or, c'est mieux que la télé-réalité qui est à 5, mais c'est moins bien que la pêche et la chasse. Hein. Et de fait, donc, si on est à 7%, ça veut dire que même les joueurs n'estiment pas, mais c'est pas grave, n'estiment pas le jeu vidéo comme un art. Ça va venir, puisqu'il y a des gens comme nous pour dire, mais non, mais si, regardez, il y a des créateurs, il y a des artistes. Enfin voilà, c'est pas grave si c'est pas reconnu comme de l'art aujourd'hui, ça le sera sans doute demain. Mais je pense qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un flou, les gens savent pas non plus, on sait pas quoi.
Globalement, je pense que quand Jean-Michel Cro-Magnon a peinturluré un truc sur sa grotte, personne n'appelait ça de l'art, et c'est juste après on est venu, on a dit ah ça c'est le premier signe de peinture sur les grottes de Lascaux, ça doit être de l'art. Mais l'inclusion ou non au moment de la création dans le champ de l'art, c'est marrant d'ailleurs que, enfin c'est cocasse que vous citiez le cinéma, parce que franchement le début du cinéma c'était pas super glorieux non plus en termes de reconnaissance en tant qu'art. Donc, on a franchement des traces assez virulentes sur le fait que le cinéma ou le roman ou le rock ou un milliard d'autres choses ne soient pas des arts.
Et bah, Kayane, Mister MB, vous, c'est parfois de l'art, c'est parfois pas de l'art.
Oui, non, mais ouais. pour moi, oui, en tout cas, enfin, quand.
C'est
quand...
pas un débat, monsieur.
Non, mais il y a des démonstrations, il y a des choses qui ont été faites en jeu vidéo qui transcendent, enfin, qui, une fois que vous le présentez à quelqu'un, peut subjuguer quelqu'un. C'est juste méconnu et puis pour l'instant, on est dans l'usage. C'est nouveau, c'est pop entre guillemets, et ça viendra. Enfin, pour moi, oui, c'est le cas. Mais bon, ensuite...
En fait, c'est difficile de qualifier un jeu vidéo comme de l'art, parce que tous les jeux vidéo ne peuvent pas forcément être de l'art. Il y en a qui... Il y a des jeux qui, typiquement, le but est de vraiment faire n'importe quoi, ou ça va à l'encontre de toute valeur morale.
Mais c'est un regard qui est important. C'est-à-dire que voilà. On regarde les jeux comme non, le cinéma c'est pareil.
Je suis super d'accord avec ça. Mais si vous pensez que la peinture c'est de l'art, vous ne m'avez pas vu peindre. Ou si vous pensez que la danse c'est de l'art, vous ne m'avez pas vu danser. Donc de dire le jeu vidéo c'est un art, ça ne veut pas dire. Tous les objets du champ du jeu vidéo sont forcément de l'art, tu vois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parce qu'il y a Picasso et mon cousin de 6 ans qui sont dans le champ peinture tous les deux. Et ça ne fait pas... Le fait que mon cousin de 6 ans soit pas hyper doué ne veut pas dire que Picasso, c'est plus de l'art.
Peut-être un jour. Il ne faut pas que tu réduises toutes les promesses tout de suite.
Ça peut réunir. Je trouve que c'est un des secteurs où on peut réunir, par exemple, de la musique, qui est de l'art aussi. On peut réunir des personnes acteurs dans le cinéma contemporain. Et je rejoins, par exemple, je parle de jeux comme ceux de David Cage. Comme Beyond Two Souls, qu'il a fait récemment, où il fait appel à des vrais acteurs pour incarner des personnages de son jeu vidéo comme Ellen Page et William Dafoe.
Il y a quelque chose d'hybride en tout cas entre les mondes différents.
Ça peut réunir plusieurs arts finalement. Et bon, voilà, ne faites pas n'importe quoi avec le jeu vidéo.
On est toujours dans le flou, je suis désolé, mais on a essayé de...
Oui, non, pardon, juste sur la question du flou des définitions, on y sera toujours.
Oui.
Il y a des gens qui nous saoulent avec... Enfin, il y a toujours... On parlait de mon cousin de 6 ans, justement. Il y a toujours quelqu'un qui nous saoule pour nous dire la tomate, c'est pas un fruit, c'est un légume. C'est la même chose. Le légume n'a pas de définition botanique. Tout est un légume. C'est juste chercher dans le dictionnaire. Le légume, ça peut être le fruit, le tubercule, la racine, etc. On accepte qu'il y ait des trucs comme les légumes, qui est une définition un peu floue, et ça ne nous empêche pas de trouver les légumes au supermarché. C'est la même chose pour l'art. Ça peut avoir une définition un peu floue, et ce n'est pas grave. Quand même, des objets vont rentrer dedans, et ça nous aide quand même, en tant qu'humains, à reconnaître les choses et à les nommer.
Autre question ? Pardon ?
Moi, j'ai une question paradoxe, parce que c'est vraiment très intéressant, votre table ronde. Et moi, je vais de ce que les gens essaient de restituer comme façon de voir le jeu vidéo. Et bon, vous avez déjà un débat sur l'art, mais dans l'émotion vraiment du plus grand nombre, c'est qu'il n'y a même pas de doute là-dessus, puisque les jeux, comme vous avez dit en introduction, ils accompagnent la société comme un art pour son émancipation dans tous les sens. Hein. C'est pourquoi les jeux, il a double caractère, comme vous avez dit. Il donne des émotions tristes, des émotions violentes, donc il y a tous les deux côtés. Mais le problème qui est préoccupant, c'est le fait de ce qu'on a mis, jeux vidéo et société. Puis, si ça accompagne la société, il y a un problème qui se pose parce que le contexte actuel sous-entend que demain ou peut-être un peu plus tard, on va être dans une situation de planète Terre aujourd'hui, mais planète urbaine. C'est-à-dire que partout, il y aura donc peut-être pas seulement les jeux vidéo. Et puis ensuite, il y a aussi un contexte qui est qu'il y aura de moins en moins de l'argent parce que pas beaucoup, beaucoup de travail. Il faut se partager le travail. Alors, j'ai remarqué quand même, il y a une question qui est en train d'émerger. Si on arrive à cet état des choses, le jeu vidéo, qui lui, c'est un jeu qui ne pourra pas quitter la société, pour acheter le matériel pour les jeux vidéo, il faut un peu d'argent, il n'y aura pas d'argent. Et une idée émerge, il faut taxer, dit-on, la création.
Ce que vous voulez dire, c'est que socialement, si on n'arrive pas à accéder aux jeux vidéo, on n'accepte pas une... Voilà, la société ne vous accepte pas, ou vous accepte mal. Il y aurait une... une scission sociale, c'est-à-dire que sans argent, pas de jeux vidéo, et donc pas de jeux vidéo, pas d'acceptation sociale, si je comprends bien, ou donc pas d'émancipation. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez exprimer, mais je le résume comme ça. Bah, sur l'émancipation, je trouve que c'est un joli mot. Est-ce qu'il y a une forme d'émancipation, de libération? Bah, pour vous, Kayane, c'est assez clair. Hein.
C'est une façon de s'exprimer. Moi, j'ai l'impression que quand je joue, mon personnage, c'est un peu la matérialisation de moi-même. Mm-hmm. Je m'exprime à travers le jeu vidéo, donc c'est une façon pour moi de m'exprimer et de m'émanciper.
L'animation, c'est une forme d'émancipation, liberté, on s'éclate.
Oui. Enfin, oui, moi, c'est une extension de moi-même. C'est-à-dire, mes deux métiers.
C'est
en
un
fait...
double alors ou pas?
Non,
mais
non, c'est pas un avatar. Les deux métiers que j'ai fait d'hobbyiste grâce aux jeux vidéo, finalement, des hobbies qui sont devenus mes métiers, c'est d'abord la partie la plus, un peu artiste déprimé, solitaire, en tant que musicien, compositeur. Et mon autre moitié, qui fait partie de moi aussi, hein, sans être malade, c'est-à-dire bah, le bon pote sur le canapé avec qui faisait rire tout le monde, le bout en train qui faisait rire ses potes à dire n'importe quoi pendant qu'on jouait. Et donc ça, c'est ensuite, maintenant, c'est extrapolé, mais entre guillemets, c'est moi aussi, et donc c'est la partie la plus drôle, et c'est génial parce qu'à travers ces deux hobbies devenus métiers, moi, personnellement, humainement, je me suis hyper accompli. Je suis maintenant quelqu'un de très... très confiant et épanoui et qui est, entre guillemets, excité de plein de choses.
Oui, et on peut voir d'ailleurs ça dans la jeune génération qui rêve de devenir comme vous, j'allais dire, c'est-à-dire émancipé par le jeu vidéo. Enfin, c'est assez même bizarre de le dire, Oscar, le côté... alors, je veux en faire un métier, mais je veux passer par le jeu vidéo pour me façonner, pour devenir quelqu'un, quoi.
Ouais, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que c'est marrant parce que c'est un milieu qui fait rêver en tant que milieu. Alors qu'en fait, tu demandes à des jeunes qui disent « Je veux bosser dans le jeu vidéo. Alors, tu veux faire quoi dans le jeu vidéo ?»« Du jeu vidéo. » »« Ah ouais, ok, ouais. » Donc, dans le jeu vidéo, tu veux être artiste, musicien, game designer, codeur, enfin traducteur, écrivain, scénariste. Il y a un milliard de trucs différents. Technicien de motion capture, je pense pas qu'il y ait des gens qui rêvent de faire ça, mais je veux pas bitcher contre les techniciens de motion capture. Mais non, fondamentalement, ouais, dans le jeu, enfin voulant le jeu, on peut faire plein de trucs. Sur ce que disait, pour répondre à ce que disait monsieur, je suis bien d'accord qu'il y a un problème d'accession au jeu. C'est un peu, enfin pour moi, ça a été la suite de mon effort de rendre le jeu plus accessible, ce que j'ai fait à la Gaîté Lyrique auprès des personnes plus âgées, dans un atelier qui s'appelait Game Holder.
Qui était sous forme d'atelier où ils étaient invités à jouer.
Exactement, avec des gens qui venaient entre eux, enfin c'était pas que pour les vieux, hein, parce qu'il y avait des gens qui venaient à 55 piges, et il y en a qui venaient jusqu'à 96 ans, et on leur apprenait à jouer, on les faisait rentrer dans le jeu vidéo, etc. C'est des gens qui sont parfois devenus des joueurs occasionnels, parfois devenus des joueurs assez gourmands de nouveautés. Mais moi, ça a été l'effort de toute ma vie, en fait. Et maintenant, si je travaille pour la société qui s'appelle Black Note, qui permet donc de jouer à des jeux sans avoir besoin d'une console, de câbles, d'installation chiante, etc., parce que tout se fait sur le cloud, en fait, et donc le jeu est streamé à notre écran. Si je travaille dans cette société, c'est aussi parce qu'elle permet une accession plus grande aux jeux vidéo, particulièrement dans des pays où on n'a pas encore besoin de ramener des consoles dans tous les foyers, d'imprimer des CD qu'on va envoyer chez tout le monde, etc., etc. Et donc c'est un step en plus dans cette dématérialisation qui, pour moi, est un truc important dans le jeu vidéo
aujourd'hui. Autre question ?
Bonjour. Moi, je n'aurais pas vraiment une question, mais plus une réaction. En fait, vous aviez parlé un petit peu de l'émergence de communautés que vous considérez comme assez positives. Moi, j'ai envie de ricocher par rapport au titre de du séminaire, par rapport aux communautés. Alors, j'ouvre un peu la boîte de Pandore, mais je trouve qu'il y a vraiment des gros soucis liés aux jeux vidéo. Alors, typiquement, ça va être avec le Gamergate. C'est quand même assez impressionnant. Alors, forcément, il y a des formes très positives de communautés où les gens se lient, il y a des forums, des amitiés. Mais on a vu que aussi le jeu vidéo et, par extension, les cultures numériques... permettent aussi l'apparition de formes de nouvelles formes de harcèlement en ligne, et puis ça va quand même assez loin. On a vu pendant le Gamergate, alors c'était parti du coup d'une critique éthique liée aux jeux vidéo, mais il y a quand même des menaces de mort, des cas sérieux de dépression aussi, c'était quand même assez violent, l'air de rien. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez peut-être un avis là-dessus, ou je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'était important de mettre en perspective quand même l'aspect que
Après, justement, on parlait justement le jeu vidéo meilleur des mondes. Il y a quand même un côté qui est assez, extrêmement négatif et, voilà.
Quand Oscar a parlé de harcèlement, justement, oui, j'avais tout de suite pensé aussi également au Gamergate. Mais tu veux peut-être réagir en premier, du coup.
Alors, c'est clair que moi, par exemple, lorsque je passe en stream ou sur des vidéos YouTube où on me voit, il y a énormément de commentaires sur le physique, sur mon niveau de jeu, des commentaires qu'on va lire parce que je suis une fille, en fait, je fais partie des minorités. Il n'y a pas énormément de filles qui jouent, et lorsqu'on en voit une à l'écran, en événement, physiquement, c'est encore plus rare. Et il m'arrive très souvent, finalement, d'être sujet de critiques, parfois de harcèlement, mais elles peuvent être très négatives. Et c'est pas seulement focus sur le jeu vidéo, c'est les gens, en général, sur Internet, avec l'anonymat. N'importe quelle personne qu'on peut voir sur Twitter, par exemple, avec un avatar, un pseudo à la con, ils peuvent, en 140 caractères, même maintenant un peu plus, vous dire n'importe quoi pour vous descendre, pour essayer d'anéantir votre journée, votre mental, votre morale. Et je le lis pas que dans le jeu vidéo, mais en politique, dans le sport, enfin vraiment tous les sujets. Et les joueurs se sont réunis avant, grâce à Internet, et ils continuent encore de se regrouper grâce à ça. Et on peut voir des forums de jeuxvideo.com. J'en ai eu des tonnes, moi, des topics sur ma tronche. Et à chaque fois, je dis aux gens qui sont susceptibles, qui ne veulent pas lire ces commentaires parce que ça les anéantit vraiment personnellement, de ne pas les lire et de ne pas les prendre à cœur parce que c'est vraiment des gens anonymes. Ce n'est pas ces gens-là qu'on voit aux événements où moi je vais, c'est pas ces gens-là qu'on rencontre physiquement, c'est pas eux qui se déplacent, qui font vivre la communauté, c'est vraiment des trolls, entre guillemets. Et j'ai fait toujours cette remarque-là parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent « Comment tu fais pour vivre dans ce milieu machiste, sexiste, tout ce qu'on veut ?» Eh bien, c'est de faire la part des choses et de pas de se dire que les gens qu'on lit qui sont, sont des trolls, qui réagissent à n'importe quelle vidéo qu'on peut voir sur une fille, c'est pas représentatif de ce qu'est vraiment la communauté des joueurs. C'est des gens anonymes qui veulent se rendre intéressants en étant méchants, parce que c'est facile. Mais moi, ce qui me permet de finalement bien vivre les choses, c'est de me rappeler qu'en fait, c'est pas ça du tout. Dès que je vais à un événement, en vrai, que je vois des gens, qu'on peut aller dans un bar, discuter ensemble entre joueurs, c'est là que je me dis, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je peux lire en vrai. Mais je vois ça dans le jeu vidéo, mais comme je disais, j'en vois dans tous les domaines, finalement.
Le Gamergate, pour celles et ceux qui ne savent pas, si je le synthétise, c'est vraiment une communauté suprémaciste blanc, se servant d'ailleurs plus du jeu vidéo comme de quelque chose de pseudo-élitiste, pour dire voilà, il y a un élitisme qui se fait par le jeu vidéo et un élitisme qui va à l'élitisme racial. Voilà, on va quand même très loin. Donc cette communauté existe,
oui, clairement.
Elle est là.
Oui, bien sûr, bien entendu, tout n'est pas rose, je dirais. Mais en plus, les joueurs étant excessivement, actifs, suractifs, hyperactifs, même sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'est vu et ça, évidemment, ça a été organisé. Ouais, tout ce qui s'est passé au niveau du harcèlement, du targeting, des actes d'intolérance et de menaces qu'il y a eu du Gamergate ont été très graves. Condamné souvent. Ensuite, il y a des choses qui en ressortent après, justement, d'autres élans de solidarité. Ça remet justement ensuite, c'est triste de devoir le remettre, entre guillemets, à chaque fois, et que ça ne soit pas une évidence. Mais voilà, justement, tout ce qui est la parité, etc., le respect, comment faire évoluer le milieu, les mentalités. C'est quelque chose qui est vrai dans le jeu vidéo parce que c'est un média qui est immature, il est vrai. Mais il est très moderne également. Donc, je veux dire, les joueurs sont dans l'air du temps. Donc, on peut discuter de ces choses-là et les faire bouger. Il y a plein de choses qui sont regrettables. Ensuite, il y a plein de choses qui sont belles. L'idée, c'est évidemment de faire en sorte d'améliorer ce vivre ensemble dans la communauté du jeu vidéo. Mais je pense, oui, en effet, que c'est pas plus toxique que les gens qui se tabassent à coups d'insultes au moment des élections ou les Figaro contre les Libérations, contre le Canard, machin, toutes ces batailles
toutes ces divergences d'opinion qu'on voit partout et ces choses néfastes et ces extrêmes d'un côté ou de l'autre, les opprimés, les oppressés, les oppressés qui deviennent les opprimés, enfin voilà, il y a toujours des embrouilles, mais qui, je pense, sont regrettables et il faut lutter contre. Ensuite, elles sont présentes dans plein d'autres...
Oui, le jeu vidéo n'échappe pas à la société, de toute façon.
Il y a beaucoup de gens immatures, comme partout. Enfin, moi, je ne suis pas misanthrope, je l'ai été. Mais le monde est malade. Donc oui, il faut faire ce qu'on peut personnellement pour le rendre meilleur.
Ce que je regrette dans ce genre d'acte, c'est qu'il y a des forums, typiquement, qui regroupent toutes ces personnes, finalement. Ouais. Mais qui le savent, ils le savent très bien, mais n'agissent pas forcément contre. Et on le sait que c'est le forum blabla 18-25 ans, par exemple, de jeuxvideo.com, qui réunit tous ces trolls et qui les aide à s'organiser en ne faisant rien, justement, parce que la modération de ces personnes-là, ils perderaient une audience considérable.
Ouais, c'est des trolls, mais ils voient des pubs et donc ça rapporte de l'argent.
Une dernière question. Ah, vous avez trois, deux à vous lever le bras, mais il n'y en aura plus qu'une. Je suis désolé. Qui tire au sort? Qui joue à Cuphead? Pardon. Oui, allez-y. Bonsoir.
Bonsoir. Je vais continuer sur l'ancienne monsieur. Moi, j'ai une interrogation sur les jeux vidéo AAA, ou on va dire les gros budgets. D'ailleurs, des budgets de marketing, des fois, qui dépassent les budgets de production. Est-ce que ce n'est pas un risque de perdre du potentiel et de l'intérêt artistique par rapport à des petite production, on va dire indépendante en général, et voilà, en misant sur les instincts primaires et autour de tout ça, je voulais avoir votre avis là-dessus.
Eh oui, une vaste
question. C'est une vaste question. Alors, pour ce qui est des budgets, le cinéma est sur la même longueur d'onde. Je ne pense pas que ce soit le jeu vidéo qui ait inventé le système de... C'est les Dents de la Mer qui a précisément inventé le système du blockbuster. C'est-à-dire, les Dents de la Mer, ils ont réussi à sortir le même jour sur tout le territoire américain. Et le budget marketing était au moins égal au budget du film de production. C'est-à-dire que... Et du coup, les deux ont matché, plus un excellent film d'ailleurs. Mais voilà, donc le jeu vidéo n'a fait que s'inspirer de ce modèle. Et les blockbusters dans le jeu vidéo s'appellent des AAA. Pardon.
Non, mais c'est tout à fait, j'imagine, fortuit que vous posiez cette question dans un endroit où on est quand même accueilli par le CNC. Le CNC, l'idée de base qui est derrière la création et le maintien du CNC, c'est ça, c'est de dire. Effectivement, il y a des lois du marché avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire en gros les gens qui ont plus de thunes sont plus visibles et donc c'est leur jeu qui se vend le plus. C'est de dire l'État, enfin la collectivité va intervenir pour que la culture soit plus riche que ça. Et donc le CNC est en capacité de mettre de l'argent, d'investir dans des jeux qui autrement n'auraient peut-être pas pu exister. Dans des jeux, dans des films, enfin dans des œuvres en fait, en vrai, qui autrement n'auraient pas pu exister. Et ça... non seulement il faut le célébrer pour le CNC, que je pense qu'on peut tous applaudir, mais il faut aussi s'en saisir un petit peu individuellement et se dire que bah, oui, on pourrait pirater des petits jeux, on pourrait les avoir gratos, mais ça, je pense que ça peut devenir une fierté revendicatrice de payer pour ces jeux, même ces jeux mobiles que la plupart des gens ont quand même envie de télécharger gratos, et pour certains c'est même une fierté. De payer 2 balles un jeu juste parce qu'il est cool et de l'offrir à ses proches juste parce qu'ils sont cool, c'est non seulement une façon d'amener vos proches à jouer à des jeux un peu différents, un peu bizarres et un peu étranges et de les amener vers le jeu, mais c'est aussi pour moi une revendication politique de dire qu'on veut autre chose que simplement les plus grosses productions du monde qui survivront tout à fait sans vous.
Il y a plein de jeux, typiquement Life is Strange par exemple, qui est un jeu qui m'a beaucoup ému, beaucoup marqué, qui a été fait par un studio français. Je trouve que c'est un bon exemple pour dire qu'il y a des jeux qui ne sont pas des blockbusters AAA, mais qui nous font vivre des émotions incroyables qu'on ne peut pas vivre avec ces jeux qui ont 300 millions de dollars de marketing. Et finalement, ce qui a fait le succès de ce jeu, eh bien, ce sont les joueurs qui y ont joué, qui ont vécu des émotions fortes et qui en ont parlé à leurs copains et qui finalement se sont dit « Ah, bah, finalement, je vais essayer. » Ils ont aussi vécu des émotions et ensuite, bah, ils le répandent comme ça. Et le succès de ce jeu vient surtout du bouche à oreille et aussi de la confiance qu'a eu Square Enix pour, pour ce jeu.
Le jeu vidéo est assez varié quand même aujourd'hui. Il y a beaucoup de blockbusters, je veux dire, mais il y a aussi beaucoup de productions indépendantes qui souffrent.
En vrai, il n'y a pas beaucoup de blockbusters. Il y a 120 jeux qui sortent tous les jours. Des blockbusters, il y en a à peu près 2 par semaine à tout péter. Donc, grosso modo, les blockbusters, c'est vraiment une toute petite proportion des jeux qui sortent. Dans tous les jeux qui sortent, il y a un paquet de daubes sur mobile, il y a des jeux flash un peu crapouec, c'est vaste, hein, mais effectivement, parmi ça, il y a des gemmes, et mon taf chez Blacknut, c'est directeur éditorial, parce que je sélectionne les jeux, justement...
Qui vont être sur la plateforme.
Et donc, justement, j'essaie de faire le tri dans cette espèce de pléthore de jeux dont... Comme pour tous les autres médias, la majorité sont quand même franchement pourris, mais il y a toujours, tous les jours, il y a un jeu intéressant qui sort, mais sans déconner, tous les jours, il y a un jeu bizarre, un jeu artistique, un jeu curieux qui sort et qui, moi, m'apprend un truc nouveau, parfois sur le monde, parfois sur les autres, parfois sur moi. Et, oui, le jeu, c'est les AAA. Oui, c'est ce qu'on voit le plus, parce que c'est les seuls qui ont la thune pour s'acheter des 4x3 dans le métro, mais c'est largement plus que ça.
Mister MV, triple A ou...
Non, moi je suis pas trop triple A pour le coup, mais les indés aussi, ont pour le meilleur ou pour le pire, mais on va dire il y a pas mal de choses. On a toujours des indés qui cravagent jour et nuit le stéréotype de voilà, tout seul chez moi, je dose à H24, je fais mon jeu. Mais on a eu les nouvelles choses telles que le crowdfunding, etc. On a une visibilité des projets indépendants qui est pas optimale. Vu que Steam est devenu ce que c'est devenu, mais qui n'est pas quand même anecdotique. Ensuite, les AAA, c'est problématique sans l'être. On voit maintenant que y a encore un studio qui a fermé là, un studio qui a été fermé
par Visceral Games.
On voit que c'est la mort un petit peu du jeu solo en AAA. Ça, déjà, il faut se le mettre en tête. On va jouer ensemble, qu'on le veuille ou non. Et donc, le AAA, oui, enfin, il y aura toujours des gens qui vont aller voir Star Wars et qui vont aller manger leur soupe et qui vont aller acheter Assassin's Creed, FIFA et Call of Duty tous les ans. Et c'est pas grave, c'est comme partout.
Ils joueront à ceux d'Orléans, tu crois, ou...
Je sais pas s'ils font des Bourg-en-Bresse Orléans, mais
Assassin's Creed Bourg-en-Bresse,
Assassin's Creed Bourg-en-Bresse, ouais, ça peut avoir la gueule, mais
une dernière question.
Bonjour. Oui. Donc vous avez, je réponds par rapport au titre que vous avez donc que vous nous montrez, jeu vidéo et société, donc le meilleur des mondes. De toute façon, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'histoire, il y a toujours eu, les gens ont toujours joué, hein, que ce soit des courses, des marathons ou d'autres styles de jeux, enfin les Jeux Olympiques, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que le jeu vidéo nous donne une possibilité. D'intéresser les gens donc à passer de bons moments, donc à jouer et en même temps améliorer le monde. Moi, je pense qu'on a une grande opportunité parce que ce média, contrairement au livre, tout le monde ne peut pas écrire un bouquin et tout le monde ne peut pas faire un film. Et je pense qu'un plus grand nombre de gens peuvent, même si c'est encore une minorité au niveau mondial, s'adonner à apprendre à jouer à un jeu vidéo. Donc c'est une grosse opportunité. Et il y a peu de temps, je passais devant un magasin qui vendait des jeux vidéo. Je suis entré. Et j'ai demandé comme ça, avez-vous des jeux un peu didactiques, des jeux un peu pédagogiques pour les enfants, même pour les adultes, pour apprendre des choses, voir autre chose? Alors le vendeur me dit comme ça, vous savez, des jeux comme ça, on n'en a pas beaucoup. J'ai dit oui, mais je voudrais des jeux où il n'y ait pas de violence, parce que souvent pour les enfants, il vaut mieux avoir des jeux un peu plus calmes. Et il me dit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a très très peu. Et moi, je regrette que beaucoup de la grande majorité des jeux qu'on voit dans les boutiques, à Paris ou ailleurs, ce sont quand même des jeux qui ont de la violence. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'il y a une éthique. Il faudrait peut-être créer une charte pour les créateurs, parce que c'est vrai que bon, il y en a qui rentrent là-dedans pour gagner de l'argent. Bon, ça peut se comprendre. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, les enfants qu'on va laisser derrière nous, c'est une grande opportunité. Il faudrait vraiment penser à cet aspect des choses, parce que les enfants sont très influençables. Quand ils voient toutes ces violences, ça les atteint. Ils donnent des coups de pied entre eux. Moi, j'en ai vu des choses comme ça. Ils se tapent dessus. Ouais, et on a une grande responsabilité. Je pense
bien, mais ils ne donnent pas des coups de pied depuis les jeux vidéo.
Comment ?
Je veux dire, il donne des coups de pied avant. Les
oui,
enfants.
Oui, non, mais
moi,
d'accord,
je,
mais
je,
c'est-à-dire
je donnais
que
des coups de pied
non,
à
non,
mon frère.
L'invention du coup de pied, c'est 1979,
mon père
monsieur.
Non,
non,
ce que je veux dire, c'est que c'est important, le créateur, le game designer.
Non, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une opportunité qui est formidable, mais à la fois, vous, ce que vous voyez, c'est beaucoup de violent. Moi, je vous invite quand même à... On va poser la question sur le côté opportunité, ce sera la dernière opportunité, ou peut-être un peu trop de violence, mais à relire l'Iliade d'Homère, puisque c'est l'acte fondateur de notre littérature et peut-être même de notre civilisation. Relisez l'Iliade d'Homère dans le texte et vous allez voir la déferlante d'horreur que c'est de A à Z. C'est-à-dire que c'est un flot de corps découpés, déchiquetés, machin. C'est, si vous le mettez en scène directement au cinéma comme ça, il n'est pas...
18 plus direct.
Ah mais 18 plus, c'est juste, on n'a pas fait de film d'horreur quasiment. Autant, enfin, c'est juste horrible. Il se découpe. Si vous voulez, l'Iliade d'Homère ou la guerre, enfin voilà, c'est intrinsèque. On reviendra au jeu d'échecs, machin. C'est intrinsèque au... Je ne pense pas que ce soit le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo s'en sert. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'Iliade, mais on ne peut pas non plus lui reprocher tout le temps de faire de la violence qui n'invente pas. C'est ça que je veux dire. Il n'invente pas cette violence.
Oui, enfin, par ailleurs, si on regarde effectivement uniquement la grosse prod, chez les films, c'est la même. Je veux dire, les gros blockbusters en film, c'est toujours
ça
des
se
gens
castagne
qui,
un peu,
qui
quand
finissent
même.
Par se foutre sur la tronche. Et par contre, là où je trouve ce que vous dites intéressant, c'est que vous dites que vous allez dans un magasin de jeux vidéo et vous ne trouvez pas de jeux didactiques. Alors déjà, ce qu'on disait tout à l'heure...
Je pense que déjà, le vendeur n'est pas très bon.
Alors, c'est probable. Mais le deuxième truc, c'est que la proportion de jeux qui sortent en CD ou qui sont dans les magasins par rapport à la proportion de jeux qui existent, c'est peanuts, c'est 0,04% des jeux qui sont en CD. Donc, juste, il faut aller autre part que dans les magasins si on veut trouver des jeux comme ça. Et par ailleurs... exiger des jeux qui soient didactiques, c'est un truc qui est bizarre, parce qu'on ne va pas dans une bibliothèque en disant « est-ce que vous auriez des livres qui apprennent des trucs ?» ou alors on va acheter un cahier de vacances, quoi. Les jeux vidéo, ils peuvent apprendre des trucs, ils peuvent ouvrir au monde, parce qu'ils sont un art, parce que c'est des objets culturels, parce qu'ils donnent à vivre et à voir des choses différentes, et pas nécessairement parce qu'ils nous apprennent les maths.
Opportunité, j'en finirai là-dessus. Pour vous, ça a été une opportunité, les jeux vidéo, mais est-ce qu'on peut voir ça comme une opportunité de vivre ensemble, puisqu'on on va boucler la boucle, Mister MV, pour vous. Est-ce que ça peut être une chance, justement, pour...
Oui, enfin, le jeu vidéo, enfin, c'est nouveau. On voit qu'on peut en faire des bonnes choses. Il y a plein de choses à en faire, il y a plein de choses à corriger, hein, bien sûr, et des gens à éduquer. On parlait à diverses choses. J'étais allé à Zurich l'année dernière. J'avais vu aussi des choses, justement, où ça s'appelle Brain Racers, je crois. Je sais pas si tu vois ce que... Ouais. Moi, j'avais fait la démo et c'est super impressionnant. Tu vois. C'était pour des personnes paralysées. Et en gros, où ils contrôlaient un jeu de course avec leur esprit, entre guillemets. C'est, si, voilà, selon les émotions qu'on ressentait, on faisait avancer, on adaptait le personnage au décor qui l'entourait pour le faire avancer plus vite. Et du coup, des compétitions e-sport, entre guillemets, se passaient sur ce jeu-là. Donc moi, maintenant, quand je commence à aller dans diverses conventions ou certains endroits, je vois tout ce qui commence à se faire. Je pense que le jeu vidéo, pour améliorer vraiment le vivre ensemble, devrait être considéré comme quelque chose de moins, anecdotique ou rigolo par vraiment les médias traditionnels et aussi,
les gens.
Les gens, l'État aussi, entre guillemets. Enfin, on peut vraiment faire tout et le jeu vidéo va prendre. Ça serait intéressant, en fait, si, d'intégrer intelligemment le jeu vidéo à notre société pour les générations à venir, afin justement d'en exploiter toutes les possibilités d'inclusion et d'ouverture qui peut apporter s'il est bien exploité. Évidemment, je comprends que le monsieur... j'ai tout à fait compris sa question et son raisonnement. Il y a une classification, il y a le PEGI, on peut savoir si ce jeu est adapté à un enfant de moins de 3 ans, etc. Mais on va trouver du divertissement dans des boutiques qui sont là pour vendre du divertissement. Ensuite, les parents, justement, qui ne reçoivent pas les informations et qui considèrent ça comme juste un produit de consommation et pour faire plaisir, comme on va offrir n'importe quoi. S'ils sont mal renseignés, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, un gamin de 6 ans qui va jouer à GTA et qui va vouloir tabasser. Enfin, il ne va pas le faire dans la rue, mais ce que je veux dire, c'est évidemment qu'on n'a pas envie d'exposer son enfant à quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Et pour maîtriser quelque chose ou pour comprendre quelque chose, il faut qu'il soit mieux expliqué. Donc ça passe maintenant par des efforts tels que ceci et peut-être qu'après, voilà, l'opinion publique, les médias...
parleront autrement. Pas le rendre angélique non plus, mais voilà.
Mm-hmm. Pour rejoindre ce que dit Xavier, Mister MV, pardon. Il faudrait vraiment que les parents s'intéressent davantage à ce qu'ils achètent à leurs enfants comme jeux vidéo. Quand ils vont dans une boutique pour acheter un jeu vidéo, généralement, le gamin va lui dire « achète-moi le nouveau Call of Duty » ou autre, alors que il y a d'autres jeux aussi à explorer, mais les parents vont se dire « il a envie de jouer à ça », ils vont voir la jaquette et ils vont pas se renseigner forcément
question
ce qu'il y a
dessus. Question de temps peut-être aussi, c'est un média jeune, c'est aussi parce que les générations sont peut-être pas assez passées.
Oui, mais ils pourraient quand même, je pense que les parents pourraient quand même se renseigner un peu sur le contenu du jeu. Finalement, je pense qu'il y a peu de vendeurs qui ont des parents qui leur demandent qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce jeu. Ou même des parents qui pourraient simplement regarder YouTube, maintenant c'est facile avec tout, son smartphone, son ordi, et regarder avant de le donner à son gamin. Et je trouve que c'est vachement important aussi que et qu'ils sachent devant quoi et ils exposent leurs enfants.
Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Il y a de la responsabilité des parents. Mais c'est important qu'on reconnaisse aussi que le jeu vidéo en tant que média, enfin en tant que société, que industrie, doit aussi un peu se sortir les doigts et faire des efforts pour mettre en avant des jeux qui sont différents, faire des efforts pour mettre en avant ou mettre dans les magasins quels jeux sont accessibles aux plus jeunes, quels jeux sont différents, quels jeux sont curieux, etc. Je félicitais, mais je refélicite le CNC qui fait cet effort-là. Mais c'est un effort qu'on doit tous, dans le jeu vidéo, faire. Et c'est un truc où on ne peut pas sans arrêt non plus remettre... Je ne dis pas du tout que tu te fais l'avocate de ça, mais on ne peut pas toujours remettre sans arrêt la responsabilité sur les autres en disant « les gens doivent se renseigner parce qu'il en existe ». On peut aussi dire « ils doivent se renseigner et on doit aussi être plus accessible ».
Je vous remercie beaucoup. Merci au CNC. Merci au Centre Pompidou, merci au Festival Prestart. Et je crois qu'on pourra retrouver la vidéo sur le site. Voilà. Donc je vous remercie infiniment et bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci.
Bonne soirée à tous.